Alors, on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines avec Josué, hein, c'est tous les ans, c'est toujours un petit peu plus long. Donc on va revenir au passage où on en était resté, c'est-à-dire Balaam, mais juste je vais résumer un petit peu ce qu'on a dit. Donc vous vous souvenez qu'après la dernière prophétie de Balaam sur le peuple, qui était extrêmement positive, le roi Balak était furax évidemment, on ne comprend pas, hein, sans transition, au verset suivant, on s'aperçoit qu'Israël se livre à l'idolâtrie. Et on se dit, qu'est-ce qu'il aura pris comme ça, du jour au lendemain, de se livrer à l'idolâtrie, de fréquenter les Cananéens et de commencer à aller adorer leur Dieu. Enfin, c'est impensable, ils venaient d'être bénis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, on a la réponse, comme quoi, vous savez, il faut toujours lire très attentivement la Bible. On a la réponse dans Nombre 31, c'est-à-dire 5-6 chapitres plus loin. On a la réponse. On s'aperçoit que Balaam avait trouvé un truc pour contrecarrer la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait dit, écoutez, il y a un truc qui peut vraiment vous donner la victoire sur eux. Envoyez les femmes, les filles, sans doute les prostituées, etc., les prostituées sacrées qu'ils avaient à l'époque, et vous entraînez les jeunes gens, les jeunes hommes, à aller adorer les dieux cananéens, parce qu'il y avait des super festins. Et comme j'avais dit, pour des gens qui étaient dans le désert et qui mangeaient la manne, ces festins extraordinaires, avec des fruits, des légumes, avec des viandes rôties, etc., ça devait être le rêve. Et en plus, on dansait, on chantait, on buvait du vin, et on adorait les dieux étrangers. Évidemment, la tentation était forte, et ça a évidemment marché. Alors, vous allez retrouver, je l'avais dit la dernière fois, dans 2 Pierre 2,15, Apocalypse 2,14, des mises en garde contre ce que la Bible appelle la voie de Balaam, ou la doctrine de Balaam, ou l'égarement de Balaam. Alors, quand vous lisez ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça fait référence à cette histoire. Cette histoire a aussi été commentée par l'apôtre Pierre, par Jude, par Jean. Et elle est vraiment importante pour nous chrétiens parce qu'elle nous enseigne par l'exemple plusieurs choses. Donc je résume ce que j'ai dit la dernière fois. Rien ni personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. Quand Dieu a un plan de bénédiction, personne ne peut se mettre en travers. Donc que ce soit bien clair, quand Dieu a un plan pour nous, personne ne peut se mettre en travers. C'est pas impossible qu'on fasse des boucles. Parfois ça arrive, hein, hélas. Mais personne ne peut empêcher le plan de Dieu pour nous. Sauf nous, bien sûr. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Même un prophète aussi efficace que Balaam, qui en plus jouait double jeu, un peu pour Dieu, un peu pour les idoles, c'est pas beau. Et la Bible dit que ce qu'il maudissait était maudit, donc c'est quand même inquiétant. Et même un gars comme ça ne pouvait pas s'opposer au plan de Dieu. Dieu avait béni, personne ne pouvait maudire. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut savoir qu'on a été bénis. Bénis non pas à cause de nos mérites, mais à cause du sacrifice de Jésus. Bénis par le Seigneur. Et personne ne peut vraiment nous maudire. C'est important de le savoir parce que, bien sûr, les Français peut-être n'y pensent pas toujours, mais je sais que nos frères et sœurs africains ou antillais savent très bien ce que c'est que les malédictions qu'on peut s'envoyer. Hein. Et dans nos villages encore, ça se sait. Et rassurons-nous, Dieu nous bénit, personne ne peut nous maudire. Dieu peut mettre aussi ses paroles dans la bouche de quelqu'un qui est payé pour nous nuire. Et ça, c'est incroyable. Il a bien mis ses paroles dans la bouche d'une ânesse. Pourquoi pas? Et il peut mettre ses paroles dans la bouche de quelqu'un qui est payé pour nous nuire, comme Balaam. Il a obligé Balaam à dire ce que lui, il avait décidé. Ça, c'est très frappant, hein. Et ça, dans la vie, souvent, on s'aperçoit de ça, hein, que ce soit un patron ou parfois un médecin, des gens d'autorité, un prof, qui, a priori, voudrait nous nuire d'une manière ou d'une autre pour X raisons. Si nous prions, Dieu peut mettre des paroles positives dans sa bouche, condition qu'elles soient vraies, évidemment, hein, mais des paroles positives. Et ça, moi, je l'ai déjà expérimenté et je sais que c'est vrai. Si on prie, si on s'attend à Dieu, même quelqu'un qui a vraiment envie de nous nuire, Dieu peut mettre des paroles positives dans sa bouche. Pensez-y parfois, parce que parfois on baisse les bras, on dit « Oh là là, il va me faire un mauvais rapport » ou « il va dire s'il s'agit du patron, bien le prof, il va me saquer parce qu'il ne m'aime pas, etc. » Et non, si vraiment on a fait ce qu'il faut devant Dieu, si on est droit et honnête, si on a fait son travail, Dieu est même capable de mettre des paroles positives dans le rapport qu'on va faire sur vous, alors que c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Et ça s'est vu plus d'une fois. Et ça se verra encore, parce que Dieu est avec nous. Donc, gardons bien ça en tête, parce que parfois, on a peur. Moi, je sais que je suis assez craintive, Mais je sais que c'est vrai, Dieu peut changer les choses. Dans la mesure, bien sûr, où les paroles sont conformes à ce que Dieu a dit, hein, c'est clair. Mais alors, qui peut donc s'opposer à la bénédiction ? Ben, c'est nous. On peut s'opposer au plan de Dieu pour nous. On peut se placer sous une malédiction en désobéissant volontairement et consciemment à Dieu. Et je vous avais donné l'exemple de sortir sans parapluie. Hein. S'il pleut des cordes et vous dites « moi je sors, je fais ce que je veux », ben vous serez mouillé. Et ce n'est pas Dieu qui vous punit, vous pouvez attraper une pneumonie après si vous ne vous séchez pas assez vite. Le fait est que ce n'est pas Dieu qui vous punit, mais c'est vous qui faites le choix de sortir sans parapluie. Donc ce soit bien clair, parce que parfois, vous savez, moi je n'aimais pas quand on disait aux petits-enfants, quand ils se cognaient ou je ne sais pas quoi, ils faisaient une bêtise, « ah ben c'est le bon Dieu qui te punit ». J'ai horreur qu'on dise ça, d'abord parce que ce n'est pas vrai. Donc un mensonge, c'est un mensonge, à quel que soit l'âge, c'est un mensonge. Et ce n'est pas comme ça que Dieu procède. Il faut que les enfants aussi comprennent, même tout petits, que si on saute sur une chaise pendant 5 minutes, on risque de tomber et de se faire mal, mais ce n'est pas Dieu qui nous punit, c'est nous. On prend des risques, hein, et ce n'est pas bien de dire ça aux enfants. Il faut être vrai. La vérité, c'est que c'est eux qui font leurs bêtises et qui se font des misères. Et c'est pareil pour nous dans la vie spirituelle. Et Balaam avait très bien compris le principe, c'est pour ça qu'il va donner ce conseil à Balak. Entraîne ce peuple à l'idolâtrie, envoie les femmes, invite-les au banquet de Baal, aux fêtes, aux festins, aux danses, à la débauche, au culte des idoles. Autrement dit, invite-les à se mettre eux-mêmes sous la malédiction, en quelque sorte à se soustraire du parapluie, à se soustraire de la bénédiction de Dieu. Et l'ennemi fait encore la même chose aujourd'hui, comme il a toujours fait. Rappelez-vous à la création. On pourrait s'imaginer que le diable se fâche contre Dieu et essaie de détruire sa création en faisant toutes sortes de choses. Non, non, non. Il ne fonctionne pas comme ça parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Donc le seul truc qu'il pouvait faire, c'était casser la création en séduisant Ève, en lui disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» et en l'entraînant à faire ce qu'il ne fallait pas. Alors, parfois, le diable nous propose à nous, chrétiens, de désobéir carrément, c'est le plus simple pour lui. On désobéit à la parole de Dieu, on sort de la parole de Dieu, on perd la bénédiction. Jonas, hein, c'est le bon exemple, on l'a fait il y a quelques années, hein, l'histoire de Jonas. Voilà, il désobéit, il va complètement dans l'autre sens. Dieu est obligé, pour le ramener, de lui faire vivre des aventures. Mais parfois, il n'y arrive pas. Et on va voir ça dans le livre de Néhémie. Si vous avez le temps, vous pourrez lire le chapitre 6 de Néhémie en entier. C'est le verset 10 qui nous intéresse. Mais dans Néhémie, on voit que il n'est pas arrivé à décourager Néhémie. Il n'est pas arrivé à lui faire peur. Il n'est pas arrivé à lui créer des ennuis avec le roi. Enfin, il a tout essayé, l'ennemi. Et il n'arrive pas. Alors, il va tenter quelque chose de malin. Exactement le même principe que Balaam. C'est, on peut dire, la voix de Balaam, comme dit la Bible. Il va lui envoyer, soi-disant, une parole prophétique en lui disant que, tu sais, tu es vraiment, ta vie est en danger, il faut que tu te réfugies dans le temple. Et vous savez bien que par rapport à la loi juive, il n'était pas question d'entrer dans le lieu saint comme ça. Et surtout que, bon, ils étaient en période de guerre et tout ça, donc ils n'avaient pas la pureté qui était requise pour entrer dans le lieu saint à cette époque-là. Cache-toi là, comme ça tu seras tranquille, ta vie sera sauve. Il savait que ce n'était pas vrai, il savait que ce n'était pas possible. Mais la peur, vous savez, la peur peut vous faire faire des tas de bêtises. Et cet homme, Tobija et Sanballa, Sanballa avait soudoyé l'autre pour qu'il ait peur. Et voilà ce que dit Néhémie, il l'avait soudoyé ainsi pour que j'aie peur, que je suive ses avis et que je pêche. Il m'aurait ainsi fait une mauvaise réputation pour me déshonorer. Vous voyez, le diable était malin. Il n'est pas arrivé à casser le travail de Néhémie pendant des années. Il a cherché ce qu'il pourrait faire, le faire pécher. Et ce n'était pas évident. Alors, en lui faisant peur par rapport à sa vie, il s'est dit, ça y est, je vais l'avoir. Ça n'a pas marché. Merci Seigneur pour Néhémie, ça aurait pu marcher. Hein. Et on s'aperçoit que souvent, le diable, alors il joue, il essaie de nous faire désobéir carrément. Il essaie de nous tenir par la peur, mais il a aussi une autre tactique que je trouve souvent qui marche malheureusement chez les chrétiens, surtout chez les chrétiens engagés. Il joue sur notre naïveté, sur la générosité des chrétiens, sur leur gentillesse, sur leur bon cœur. Et c'est souvent la méthode qu'il emploie. C'est un peu la méthode de Balaam. On va les faire pécher. Et vous savez, les chrétiens malheureusement sont assez fragiles dans le domaine de la gentillesse. Pendant un temps, les gendarmes nous passaient dans les mairies. Je ne sais pas si vous avez eu ça, mais je crois que Yves a dû voir ça. Ces petits papiers où les gitans avaient un code. Alors, si c'était un carré, un rond, une flèche, etc. Et ça voulait dire quelque chose. Ils gravaient ça sur les maisons, sur le poteau d'entrée ou sur la porte, sur la boîte aux lettres. Et comme ça, quand les autres gitans passaient, ils savaient ce que ça voulait dire. Et un des termes du code, c'était « on est bien reçu si on parle de Dieu ». J'ai encore le papier. Et oui, profite de la naïveté des chrétiens. Vous savez, ça, c'est dans le monde, hein, c'est dans ma mairie qu'on m'a donné ça. On est bien reçu si on parle de Dieu. Voilà comment le diable peut nous faire du mal, par notre naïveté, par notre générosité. Et j'ai malheureusement vu, et on va bientôt parler de Josué avec les Gabaonites, et là, on en parlera plus longtemps. Combien de familles j'ai vu brisées, des couples détruits, des enfants complètement dégoûtés de la foi, pour simplement avoir accueilli sans discernement des gens qui avaient l'air très bien. Et j'aurais malheureusement des histoires atroces à raconter à ce sujet. Et parce que c'est une stratégie qui fonctionne bien, le diable l'utilise. Et il cherche à nous faire sortir de la bénédiction pour qu'on se place sous la malédiction de la désobéissance et du péché. Alors vous allez me dire, mais alors, ça ne donne pas envie d'être chrétien. Ça ne donne pas envie d'être généreux ou d'être gentil. Mais même dans ces cas-là, et on va en parler à propos des Gabaonites, il y a la prière, il y a l'écoute de Dieu et il y a le don de discernement. Ça, c'est quand même déjà trois solutions. Et il y en a une quatrième, c'est aussi l'aide des autres frères et sœurs. Pour résister à ce genre de difficultés, c'est ne pas s'isoler. Ne pas s'isoler. Ne pas se couper des conseils ou du regard des autres, surtout quand on sent qu'on est prêt à glisser. Un ami en crise peut très bien voir la situation d'un autre angle, nous avertir et prier pour nous et avec nous. Et il y a des moments, que ce soit dans le travail, que ce soit dans des situations humaines, de la vie courante, où le diable peut essayer de nous faire glisser en tablant sur notre gentillesse. Oh, tu ne vas pas laisser cette femme toute seule, elle est vraiment en détresse, il faut l'accueillir à la maison, etc. Enfin, vous imaginez toutes les histoires que j'ai malheureusement vues. Là, c'est la prière, l'écoute de Dieu, le discernement. Il ne s'agit pas de renvoyer tous les gens qui ont besoin de nous, ce ne serait pas chrétien, mais demander du discernement à Dieu et profiter aussi du discernement des autres frères et sœurs. Une chose est sûre, dans ces moments-là, quand le diable est prêt à nous faire glisser, il faut trouver quelqu'un qui va prier avec nous. Parce que la pente est savonnée, elle est bien glissante, il faut s'accrocher avant qu'il soit trop tard. Et si jamais vous êtes dans une situation comme ça, cherchez des gens avec qui prier. On ne peut pas se confier à n'importe qui, mais il faut chercher quelqu'un qui va vous donner le conseil de Dieu, pas son conseil à lui. Et je pense toujours à ce propos à l'armée romaine qui avait ses boucliers. Vous vous souvenez, quand vous avez tous lu Astérix ou vu les Astérix, c'est la culture. Vous voyez les boucliers des Romains, et c'est vrai, hein, les boucliers des Romains qui étaient bien placés sur le premier rang. Et ensuite, le deuxième rang mettait son bouclier au-dessus de la tête de l'autre. Ce qui fait que quand il se déplaçait, c'était pire qu'une tortue. C'était, je crois que d'ailleurs ça s'appelait la tortue, et c'était vraiment, ils se déplaçaient complètement protégés. Ceux des côtés mettaient leurs boucliers sur les côtés, et de cette manière, l'armée était hyper bien protégée. Et je pense souvent que l'Église de Jésus-Christ doit un peu fonctionner comme ça. Notre bouclier va protéger celui qui est devant, et il s'agit de veiller sur les autres, et pas de les contrôler. Malheureusement, je crois qu'il y a des endroits où on contrôle les gens, et l'Église n'est pas appelée à contrôler. On est appelé à laisser les gens libres. Une fois qu'on leur a dit ce qu'on avait à dire, qu'on les a prévenus, on les laisse libres. Il ne s'agit pas de les contrôler. On les a prévenus, après c'est leur choix devant Dieu. Il faut savoir laisser les gens libres, mais il faut aussi savoir les prévenir. Voilà, donc c'était une sécurité par rapport à notre Balaam, parce que des Balaam, on en a encore beaucoup autour de nous. Et vous allez en rencontrer, si vous ne les avez pas déjà rencontrés, des gens qui vont chercher à vous faire glisser, à vous faire tomber, pour que la bénédiction de Dieu ne demeure pas sur vous. Donc je me suis un peu attardée là-dessus parce que j'en ai vu trop et je pense que c'est important de se rappeler de ça. Alors j'avais dit aussi la dernière fois, qu'en est-il de Josué ? Pendant toute cette période, les 40 ans dans le désert, on en a très peu parlé. Je trouve même bizarre qu'on n'en ait pas parlé au moment de la guerre contre Og et Sihon, les rois de Bazan, rois des Amoréens. Est-ce qu'ils conduisaient l'armée ? Est-ce qu'ils restaient à côté de Moïse ? La Bible ne dit rien. Moi, je me suis posé la question, j'ai cherché dans chaque verset, pas d'allusion à Josué. Et simplement, tout ce qu'on sait, c'est qu'il était là, qu'il était serviteur de Moïse. On sait qu'il ne quittait pas le tabernacle, il vivait un peu à l'ombre de Moïse. 40 ans, c'est long. d'événements, de marches, de souffrances, de décès. Parce que pendant tout ce temps-là, vous vous souvenez, le peuple qui était sorti d'Égypte mourait. Donc, quelqu'un s'était amusé à faire le calcul, enfin, si on peut dire. Ça faisait, je ne sais plus combien de décès par jour pour qu'ils arrivent au bout de 40 ans à entrer sans qu'aucun, à part Caleb et Josué, aucun de ceux qui avaient passé la mer Rouge n'entre en Canaan. Ça faisait beaucoup d'enterrements tous les jours. Ça ne devait pas être marrant, quand même. Beaucoup de rébellions. Josué, on n'en parle pas. Il est discret. Il ne revendique rien, puisqu'on n'en parle pas. Il se confie en Dieu. Et il s'attend visiblement à ce que Dieu l'élève au temps convenable. Bah, 40 ans, c'est long. Vous savez, il est mort à 110 ans. S'il a attendu 40 ans dans le désert, il avait donc à peu près 20 ans en sortant. Ça veut dire que pendant 60 ans de sa vie, il a attendu. Alors si vous vous plaignez d'attendre 8 jours, pensez à Josué, il a attendu 60 ans, à peu près. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose. Hein. On pourrait se dire, mais Seigneur, c'est plus de la moitié de ma vie. Parce que moi, à cette époque-là, l'espérance de vie était quand même un peu autour de 100 ans pour certains. Mais bon, l'espérance de vie était plus courte pour les autres. Seigneur, je suis bientôt à la fin de ma vie. Mais Dieu avait ses plans. Il aurait pu être amer, blasé, déprimé, fini, achevé, démoralisé, dévoré par le sentiment d'injustice parce qu'il a payé 40 ans dans le désert avec les coupables alors que lui, il était innocent. Il a même failli perdre la vie à cause de sa foi. Il est comme oublié, on ne parle pas de lui. Aaron est mort quand on arrive à la fin de l'histoire. Éléazar, son fils, a été nommé par Dieu à sa place. C'était une cérémonie très impressionnante. Hein. On a enlevé les vêtements de son père, Aaron, et on les a mis à Éléazar. Tout le monde sait que Moïse n'entrera pas en Canaan, mais on se dit qui est-ce qui va le remplacer. Et dans Nombre 27, on lit ceci. Toi aussi, tu seras réuni au tien, c'est Dieu qui parle à Moïse. Comme Aaron, ton frère l'a été, parce que vous avez été rebelle à mes ordres dans le désert, lorsque la communauté m'a cherché querelle. Moïse dit au Seigneur, que le Seigneur, le Dieu de l'esprit de tout être, nomme à la tête de la communauté un homme qui parte en campagne devant eux. Donc il est clair dans sa demande. Hein. C'est Yom Kippour qui disait qu'il fallait être clair quand on demande quelque chose à Dieu, et précis. Un homme qui parte en campagne devant eux, qui en revienne devant eux, qui les mène en campagne et qui les en ramène pour que la communauté du Seigneur ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et voilà ce que le Seigneur répond. Prends Josué, fils de Noun, homme en qui il y a l'Esprit de Dieu. Tu poseras la main sur lui. Voilà. Nombre 27, versets 15, 16 et les suivants. Josué, homme en qui il y a l'Esprit de Dieu. Alors ça rappelle un autre verset, hein, c'est Étienne, le diacre, en qui il y avait, qui était rempli du Saint-Esprit. Et le rôle de cet homme, on le voit ici, ça va être un berger et un chef militaire qui accompagne le peuple. Donc son rôle va être un petit peu différent de celui de Moïse. Alors il n'y a pas eu de campagne électorale, il n'y a pas eu de manipulation, de magouille, de lutte d'influence, de lobby. Même Moïse n'a pas proposé de candidat. Il aurait pu, hein. Oh, il y a un tel que j'aime bien, ou... Il va vers Dieu et dit, voilà Seigneur ce qu'il nous faut. Et Dieu lui parle. On aimerait bien que ça se passe comme ça aujourd'hui. Hein. Mais Moïse avait la chance de parler face à face avec Dieu. Mais ça a été clair et simple. Il s'en remet à Dieu et Dieu lui répond. Alors, je me tarde un petit peu sur qu'est-ce qui a pu déterminer le choix de Dieu. On a déjà dit que Josué avait été humble, réservé. Il avait suivi Moïse avec vraiment beaucoup de sagesse et dans l'ombre, dans l'humilité. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est la première chose que Dieu va dire. Prends Josué, homme en qui il y a, alors ma version dit du souffle, l'Esprit de Dieu. Et je me suis posé la question, ça veut dire quoi, être rempli de l'Esprit de Dieu? Parce que bon, le Saint-Esprit habite en nous, donc on est tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il veut dire là, quand il dit homme en qui il y a l'Esprit de Dieu? Alors, je me suis dit, souvent, vous savez, c'est pratique de définir quelque chose par son contraire. S'il y a l'Esprit de Dieu, ça veut dire que c'est pas son esprit à lui. Depuis le jour où nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés, où on lui a confié notre vie, on fait partie, nous aussi, de ce peuple choisi. Vous vous souvenez ce que c'est Paul, hein, je crois, qui a dit ça. Sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Non, c'était Pierre. Paul lui dit, il lui parle d'ambassadeur de Christ. Et quand Dieu nous envoie pour le servir, pour annoncer la bonne nouvelle, la Bible dit annoncer, c'est au fait, pour être ambassadeur là où nous sommes, qu'est-ce qu'il cherche en nous? Je crois que c'est comme pour Josué, des hommes et des femmes qui soient remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui ne soient pas remplis d'eux-mêmes. Bah, ça, c'est méchant. Hein ne pas être rempli de soi. Bah, c'est pas évident. On est nous. Je suis moi. Comment est-ce que je ne vais pas être rempli de moi si je suis moi? Eh bien, c'est impossible humainement. Par exemple, vous allez dire, mais j'ai mon caractère. Par exemple, quelqu'un de colérique va dire, moi je suis colérique, c'est normal, on n'a qu'à accepter, moi je suis comme ça, c'est mon caractère. On a nos traditions familiales. Ben, dans ma famille, on n'a jamais fait ça comme ça, il est hors de question que ça change. On a notre culture, nous les Français, on est bien placés, on a une culture à laquelle on est attaché, on décortique tout, on juge tout. Pas facile de lutter contre cette culture. On a notre sagesse. Moi, je sais me débrouiller tout seul. J'ai acquis de l'expérience. On a notre façon de voir à nous. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Ah non, non, non. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. J'ai mes habitudes. On vit avec son époque aussi. Ah ah, ça joue aussi, ça, hein, notre époque. C'est dans l'air du temps. Faut vivre avec son temps, mes enfants. Faut vivre avec son temps. Et puis, on a notre volonté, nos idées. Alors, avec tout ça, tout ce que je viens de dire, on est nous. Et on est rempli de nous. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. C'est épouvantable. Renoncer à soi. C'est un programme épouvantable. Vous imaginez, tout ce que j'ai dit là, c'est nous. Et il faut renoncer à ça. Renoncer à soi-même. Mais c'est impossible. Alors, on va me dire, on ne se refait pas. Ce n'est pas possible. Donc, on est fichu. On peut partir. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Dieu peut nous changer. Dieu peut nous changer. Alors, hélas, il ne va pas nous changer comme la poudre de perlimpinpin. Et hop, on est transformé. On aimerait bien, ça serait plus facile. Mais c'est tout un processus, c'est tout un chemin, toute notre vie. Dieu nous change, si on se laisse faire. Parce que, à la différence du diable qui prend possession de vous et qui fait de vous ce qu'il veut, une fois qu'il vous a chopé, Dieu vous laisse libre. Il nous laisse libre jusqu'au bout. Il nous propose les changements, il nous aide à changer. Il provoque les circonstances pour qu'on change. Mais il veut nous refaire, lui. C'est probablement ce que Josué a dû vivre pendant toutes ces années, pour être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on peut vivre si on permet au Seigneur de nous changer. Romains 12, 2, « Soyez transformés ». Et c'est curieux ce verset, parce qu'il prend le problème par le fond, pas les apparences, on peut toujours transformer aux apparences. On peut s'habiller en vert au lieu de s'habiller en rouge, on peut mettre un autre type de chaussures, on peut avoir un autre type de voiture, de maison, ça c'est facile. Mais changez de l'intérieur. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée ou de votre intelligence suivant les traductions. Ah, ah, ça c'est dur. Changer de forme de pensée, mais j'ai toujours pensé comme ça. Dans ma famille, on a toujours pensé comme ça. Mais la Bible dit, ah, ça fait rien ce que la Bible dit, on a toujours pensé comme ça. Je me souviens d'une chrétienne qui était gentille comme tout, qui était venue dans notre église une fois et qui était tout à fait contre le fait qu'on tape des mains pendant les chants. Moi, j'étais élevée dans les assemblées de Dieu, on a toujours tapé des mains pendant les chants, donc ça me semblait pas bizarre. Mais elle ne supportait pas. Et alors, je lui avais dit, mais où est le problème? Parce que dans les psaumes, il y a quand même tout un tas de versets qui parlent de taper des mains au Seigneur, etc. Mais mon pasteur m'a toujours habituée différemment. Ah, ma culture. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Seigneur, change ma façon de voir, change ma façon de penser, rends-moi disponible à toi, que je ne sois pas remplie de moi, mais de toi. Et ça, ce n'est pas possible sans que Dieu le fasse. Alors, je pense que souvent, on chante, moi j'y pense chaque fois que je chante ça, j'ai oh, « change mon cœur, Seigneur hein ». Ou bien alors « transforme-moi à ton image, aïe, aïe, aïe ». On ne sait pas ce qu'on chante. « Être comme Jésus ». Est-ce qu'on le veut vraiment? Être rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus, pour être des bons ambassadeurs de son royaume. Et si on veut vraiment être des bons ambassadeurs de son royaume, il n'y a pas d'autre solution. Parce que sinon, on va avoir un message qui dit une chose et notre vie qui dit autre chose. Et vous savez, j'ai parlé avec quelques-uns là à propos du passage du pasteur qui était là dimanche, Claude Ruffo, et je disais, mais bon, il a vieilli, peut-être dans ses messages, il se répète. Enfin, moi, je me répète déjà, qu'est-ce que ce sera à cet âge-là? Mais il y a quelque chose qui sortait de lui, qui était plus important même que ce qu'il disait, qui parlait plus fort que ce qu'il disait. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a tous vécu hein, quand on a prié et qu'on était autour de lui. Et je crois que c'est ça. C'est ça, être rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on vit ce qu'on est, parle plus fort que ce qu'on dit. Et c'est ça que Dieu veut, être rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus pour être des bons ambassadeurs de son royaume. Alors il ne s'agit pas de chercher, ça je le dis à chaque fois, parce que je sais que c'est notre tendance humaine, de rechercher la perfection, mais le renouvellement quotidien de tout ce qui est en nous. Que la lampe qui nous conduit, ce soit vraiment la parole de Dieu et pas notre sagesse. Bon, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et surtout les gens qui sont assez sages. Moi, j'ai connu des chrétiens qui avaient une sagesse naturelle assez forte. Et c'était difficile pour eux de se soumettre à la sagesse de Dieu. Parce qu'ils avaient déjà un nombre de choses bien, bien réglées. Et la sagesse de Dieu, quelquefois, elle est folie. Elle est folie. Pas toujours, mais elle peut paraître folie à nos yeux. On apprend tous petit à petit à laisser l'Esprit de Jésus remplacer notre moi et à renoncer à soi. Notre culture, notre caractère, notre sagesse, nos valeurs, notre façon de voir et de vivre, tout ça, ça a besoin d'être remanié. Soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Je sais que je dis souvent, mais c'est quelque chose qui me frappe, parce que vraiment les gens qui m'ont impressionné dans ma vie chrétienne, c'est ceux-là, c'est ceux qui ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Josué? Donc il a cherché un homme qui était rempli de l'Esprit du Seigneur, et il lui dit, tu poseras la main sur lui. Ah, c'est un programme. En posant la main sur lui, il lui donne en quelque sorte l'investiture publique, la légitimité. Passation de pouvoir. Ensuite, il lui dit, devant toute la communauté, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux, devant tout le monde. Donc il lui passe l'investiture, la dignité, la légitimité. Et puis il va lui donner des ordres. Tu lui donneras de la dignité afin que toute la communauté des Israélites l'écoute. Alors curieusement, Dieu va plus lui parler face à face à Josué. C'est triste. Il se tiendra devant Éléazar le prêtre qui demandera pour lui le jugement de l'Ourim devant le Seigneur. Et c'est sur ses ordres qu'ils partiront en campagne. Donc c'est toute une cérémonie. Il lui transmet l'investiture, la dignité pour avoir l'obéissance, hein, l'écoute et l'obéissance du peuple. Et il doit s'adresser au prêtre pour consulter Dieu. Donc il n'y a plus ce contact comme il y avait avec Moïse. Et puis Moïse va lui donner des ordres. C'est intéressant parce qu'on en a plusieurs pages. Hein? Il posa ses mains sur lui et lui donna ses ordres, comme le Seigneur l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Et vous avez plusieurs chapitres de tout ce que Dieu veut. C'est long, c'est pas très drôle à lire, mais c'est intéressant. On ne va pas rentrer là-dedans, simplement Moïse lui donne des directives très précises sur comment adorer Dieu. Comment diriger le peuple? Comment faire la conquête? En gros, c'est ça. Et il lui dit, toi, tu n'y entreras pas. Josué, qui se tient à ton service, y entrera. Rends-le fort, car c'est lui qui donnera ce pays comme patrimoine à Israël, Deutéronome 1:38. Rends-le fort ou encourage-le, suivant les versions. Pensez que Josué, un homme rempli du Saint-Esprit, avait besoin d'encouragement. Ça m'a fait drôle. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait besoin d'être encouragé. Parce que quand même, il avait beau être rempli d'esprit, il était humain, et il était comme nous, et on a tous besoin de s'encourager les uns les autres. Je crois que c'est quelque chose qu'on apprend toute notre vie, à s'encourager les uns les autres. C'est pas facile, hein, c'est pas toujours naturel, parce que parfois nous on est découragés, on n'a pas envie d'encourager l'autre. Mais vous savez, j'ai remarqué une chose, une fois il y a un pasteur qui est venu prêcher ici, c'était le pasteur anglican de Versailles, il est parti maintenant, et il a fait un message vraiment super, qui nous a tous encouragés. Et à la sortie, je lui ai dit, ouais, merci, c'était super. Je le traduisais. Et puis, il a dit, ah, ça vous a apporté quelque chose? Ça vous a encouragé? Je dis, oui, c'était vraiment, vraiment encourageant, votre message. Il dit, mais moi, je suis complètement déprimée. Vous savez que, par l'Esprit de Dieu, on peut apporter des encouragements, même quand soi-même, on est déprimé. Même quand soi-même, on est découragé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. On a prié pour lui, on ne l'a pas laissé partir comme ça. Mais, c'est pour vous dire qu'on peut encourager les autres, même quand on est au fond du trou. Et c'est en encourageant les autres, parfois, qu'on va ressortir de notre trou, d'ailleurs. Donc, Josué avait besoin d'encouragement. Et on va voir ça énormément. Hein. Alors, Deutéronome 3:21, en ce temps-là, j'ai donné des ordres à Josué. Et Moïse va nous dire, je lui ai dit, tes yeux ont vu comment le Seigneur, votre Dieu, a traité ces deux rois, Sion et Og. C'est ainsi que le Seigneur traitera tous les royaumes où tu vas passer. N'ayez pas peur d'eux, le Seigneur, votre Dieu, combat lui-même pour vous. 3:28. Donne des ordres à Josué. Oui, ça revient. Rends-le fort et courageux. C'est lui qui passera devant ce peuple et qui lui donnera comme patrimoine le pays que tu verras. Alors on se dit, mais alors qu'est-ce qu'il fait Moïse pour d'ailleurs donner des ordres, ça va, mais encourager, rendre fort et courageux, comment est-ce qu'on rend quelqu'un fort et courageux? Je me suis posé la question. Parce que Dieu n'arrête pas de lui dire, rends-le fort et courageux, mais comment on fait ça? Alors j'ai regardé ce qu'il a fait. Alors d'abord, il va faire deux très longs discours qui retracent, c'est pas les discours qui sont longs, c'est il retrace la fidélité et la puissance de Dieu, son alliance et son éducation au désert. Il va tout re-raconter. Comment est-ce qu'on peut se fortifier, nous, et fortifier les autres? En racontant ce que Dieu fait. En racontant ce que Dieu fait. Tu te rappelles un tel qui avait tel et tel problème, comment le Seigneur l'a béni? Tu te rappelles quand on a prié pour un tel qui était malade et comment il a été guéri? Tu te rappelles comment un tel est venu au Seigneur après qu'on ait prié 8 ans, 10 ans, le jour où on pourra dire pour Marie-France et pour Julie, hein, tu te rappelles? On a prié 30 ans, mais leurs maris se sont convertis. Ça, c'est ça. On se raconte les choses de Dieu. Ça, c'est important. Ça fortifie la foi. Tu te rappelles qu'est-ce que Dieu a fait tel jour? Qu'est-ce qu'il a fait pour un tel? Pour un tel. Parce que ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour nous. Parfois, on tombe dans l'amertume. Oh oui, il a béni l'autre, il ne m'a pas béni moi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Seigneur, tu as béni l'autre, alors tu vas me bénir moi aussi. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Des discours qui retracent toute la fidélité. Alors, vous savez, ils sont longs, hein, mais ils sont passionnants à lire. Parce qu'on voit comment on voit la main de Dieu sur le peuple d'Israël pendant toutes ces années. C'est fantastique. Voilà comment on s'encourage. Avec des promesses, des recommandations et toujours la mise en garde contre les idoles. Puis, il donne des ordres, il répète les 10 commandements. Donc, nous, on se fortifie en comptant les bienfaits de Dieu. Et aussi en se rappelant ses commandements. Pour nous, c'est d'avoir toujours la parole de Dieu sous nos yeux, présente à notre pensée, à notre cœur. Donc je sais que les jeunes aiment bien lire, et puis bon, les plus âgés aussi, le premier chapitre de Josué, « Sois fort et bon courage ». Comment est-ce qu'on devient fort? Comment est-ce qu'on a bon courage? On se rappelle des bénédictions de Dieu, on se rappelle de ses commandements. Que ta parole soit toujours sous nos yeux, présente à notre pensée et à notre cœur. On ne peut pas être encouragé si on ne puise pas dans la parole de Dieu. Alors on peut s'encourager à la force du poignet. « Je tiendrai, parce que je suis chrétien. » J'y arriverai, parce que je suis solide. Ça, un jour ou l'autre, ça peut casser. Mais on tient, parce qu'on se rappelle des promesses de Dieu, parce qu'on se rappelle de ses commandements. On s'imprègne de la parole de Dieu. Troisième chose, on se fortifie, parce qu'on se rappelle de l'alliance. Et Moïse va passer du temps à répéter l'alliance en termes très clairs. Alors là, ça ne peut pas être plus clair. Si tu sers Dieu, si tu ne le sers pas, voilà ce qui se passera. Les termes de l'alliance sont clairs. Vous savez, quand on fait un contrat, pour acheter quelque chose, ou un contrat quand vous achetez votre maison, etc. Il y a des termes très clairs. Même si le langage juridique, c'est pas, hein, mais sauf pour ceux qui le connaissent. Mais par contre, c'est clair. Si tu fais ceci, si tu fais cela. Si tu sers Dieu, voilà ce qui va se passer. Si tu sers pas Dieu, voilà ce qui va se passer. C'était la troisième chose. Il va répéter l'alliance à Josué, très clairement. Donc, s'encourager par les choses que Dieu a faites, rappeler ses commandements, s'appuyer sur sa parole, répéter l'alliance. Et c'est quoi l'alliance pour nous? Jésus-Christ a pardonné nos péchés, il a donné sa vie à la croix pour qu'on soit pardonné. Et si on veut bien le suivre, il marche avec nous. Répétez cette alliance dans nos cœurs. Vous savez, on ne se lasse jamais d'entendre Jésus a donné sa vie pour nous pardonner. Et quand on est enfant de chrétien, et là je m'adresse aux enfants de chrétiens parce que j'en suis une aussi, c'est quelque chose qu'on a entendu depuis qu'on est bébé. Et ça n'a plus autant de saveur pour nous. Du coup, il faut prier. Il faut dire, Seigneur, redonne-moi cette saveur à cette vérité. Et vous savez, un des meilleurs moyens de retrouver la saveur de cette vérité, c'est d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. Pour ça que moi, je suis un peu fanade, ça, parce que quand on parle de l'évangile à quelqu'un, qu'on l'amène à accepter le salut en Jésus-Christ, et qu'on voit cette libération, c'est presque physique, qu'on voyait les gens qui disent, ça y est, je sais qu'il a pardonné mes péchés, c'est formidable. Ça retrouve toute sa saveur pour nous, les vieux. Les vieux jeunes, quand on est bercé dans l'évangile, on a besoin de vivre ça avec eux. Parce que c'est formidable, ça nous redonne ce sens de l'alliance de Dieu avec nous. Dieu tient sa part du contrat d'alliance. On peut aussi le redire dans la prière. Il nous fortifie et quand on redit son alliance dans la prière, Seigneur, tu nous fortifies parce que tu as donné ta vie. Parce que c'est important de répéter cette alliance dans la prière. D'où l'importance aussi de prier en citant des versets bibliques. C'est pas un truc. C'est simplement, c'est là-dessus qu'on appuie notre prière. Et puis, comment est-ce qu'on s'encourage ? Par le rappel des promesses de Dieu. Promesse de Canaan pour eux, terre réservée pour le peuple depuis Abraham. Et pour nous, c'est la promesse de Jésus qui est gravée dans nos cœurs. Alors là, j'ai pensé quand même, faut faire attention. Il y a des promesses, attention aux promesses, et à notre façon de les voir, qui peuvent être un peu différentes de celles de Dieu. Et ça a été le cas des 10 espions. Ils croyaient aux promesses de Dieu, je vais vous donner un pays, mais quand ils sont aperçus qu'il fallait se battre pour le conquérir, mettez-vous à leur place. C'était pas la promesse comme j'espérais. Moi, j'espérais qu'on allait rentrer et qu'ils allaient ouvrir les portes des villes. Bienvenue, construisez où vous voulez, prenez nos champs. Enfin, je sais pas ce qu'ils s'imaginaient, mais il fallait conquérir ce pays. Oh, pas pour une promesse, là, c'est pas drôle, hein. Et on a ce problème en tant que chrétien, parce qu'on est humain. On est toujours d'accord pour le pays promis où coule le lait et le miel, mais on n'est pas d'accord pour la guerre avec les géants. Moi, je les comprends, hein. On est d'accord pour avoir le pays promis, on n'est pas d'accord pour faire la guerre avec les géants. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que ce soit dans le ministère, que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans votre mariage, que ce soit en élevant des enfants, ce sont des exaucements de Dieu, mais ils amènent aussi leur lot de lutte avec des géants en tout genre. C'est triste, hein, c'est la vie. C'est pour ça que ce sera mis au ciel. Parce que toutes les promesses de Dieu, toutes les belles choses qu'on a demandées à Dieu, elles ont aussi leur lot de bagarres. Moi, j'aimerais une vie chrétienne sur des pétales de rose. On n'a pas besoin de se bagarrer. J'aimerais ça. Moi, je suis pas trop bagarreuse de nature. Waouh, ce serait tellement bien. Vous trouvez pas ? Ah, dites la vérité. Et puis, on s'aperçoit que dans tous les domaines, on a la promesse, on a le pays où coule le lait, le miel. Mais on a notre lot de géants. Et ça, c'est pas marrant. On a notre lot de géants, puis ils sont bien armés. Ils sont hargneux. Ils sont beaucoup plus grands que nous. Ils sont horribles. C'est dommage. Donc attention, parce que parfois, moi, j'ai vu des chrétiens se décourager. Mais j'ai prié. Dieu m'a répondu. Puis regarde maintenant les difficultés que j'ai. J'ai prié. Dieu m'a donné une promesse. Canaan, je suis arrivée, il y avait plein de géants. C'est notre vie. Canaan, c'est notre vie. Et on le sait tous, quand on a élevé des enfants, c'est mignon, un petit bébé. Christelle est toute contente avec Zoé. Mais bon, on sait bien que ça grandit et que, bon, alors, entre les maladies, les soucis, les machins, trucs, hein, on n'a jamais fini. Il y a des géants tout le temps, partout. Il faut savoir se battre. Voilà pourquoi, comme Josué, on a besoin des mêmes encouragements. On a besoin de se fortifier avec les bénédictions passées. Tu te rappelles le géant là-bas au coin de la rue, comment il a été écrabouillé par Dieu ? Alors ce géant-là aussi, il l'aura. Et puis celui qu'on commence à voir arriver là-bas, il l'aura aussi. Parce que ceux derrière, il les a abattus. On a besoin de se rappeler de ça. Enfin, moi, j'en ai besoin. J'aime bien, moi, quand on se réunit avec des chrétiens, puis qu'on commence à se raconter tous les témoignages. Comment Dieu a fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. On ressort de là. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Fortifions-nous avec les bénédictions passées. Sa parole dans nos cœurs, son alliance, ses promesses. Et juste un tout petit, à propos des promesses, j'ai aussi un petit souci, c'est que j'ai vu beaucoup de chrétiens, malheureusement, maintenant on vieillit, on voit les choses se passer avec le temps, qui ont construit leur vie autour de ce qu'ils croyaient être une promesse de Dieu. Et j'ai noté sur mon cahier 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes que je connais comme ça. Et c'est à en pleurer, parce qu'ils arrivent au bout de leur vie et ça ne s'est pas réalisé. Parce que c'était... Je pense maintenant, avec le temps, je crois pouvoir dire, c'était une promesse qu'ils se sont construits eux. Et ils ont cherché des confirmations à droite à gauche. Et ils étaient attachés plus à la promesse qu'à celui qui a fait la promesse. Et ça fait mal au cœur. Et l'exemple le plus classique, c'est Jeunesse en mission, quand ils ont eu leur premier bateau. C'était une promesse de Dieu, c'était leur Isaac. Et puis tout a foiré, il a fallu le revendre. Et Dieu leur a dit après, parce que vous étiez plus attachés au bateau qu'à moi. C'est dur, hein ? Dieu avait pourtant promis qu'ils en auraient. Maintenant, ils en ont 3, je crois. Mais ils ont dû passer par ce sacrifice d'Isaac. Ils ont dû laisser le projet entre les mains de Dieu. Et Dieu leur a donné après. D'ailleurs, plus d'un, je crois que c'est 3, hein, maintenant qu'ils ont. Mais attention de ne pas construire sa vie autour d'une promesse Je ne parle pas des promesses spirituelles. Hein. Je parle des promesses, tu seras ceci ou tu seras cela, tu seras chirurgien ou tu seras ci ou tu seras ça. Ou... Attention. Je crois qu'il faut faire attention. On fait... Vous savez, n'ayez jamais peur. Je pense surtout aux jeunes. Si Dieu veut que vous fassiez quelque chose de votre vie, et vous sentez que c'est bizarre, c'est quelque chose que vous avez dans le cœur, vous inquiétez pas. Quand Dieu veut quelque chose, il le fera. Il le fera. Même si vous ne bougez pas, il le fera. Mais surtout, n'allez pas construire toute votre vie autour d'une promesse que vous croyez être de Dieu et qui est en fait, je ne sais pas comment on peut la définir, charnelle, personnelle, je ne sais pas. C'est dangereux. Et ces quatre, c'est six, hein, 3 et 3, 6, oui, j'ai noté les noms, vous ne regarderez pas sur mon cahier. Alors, c'est des gens, vous ne connaissez pas. Mais ces six personnes me font de la peine parce qu'elles ont construit toute leur vie en disant, voilà ce que Dieu m'a dit que je serais, et je ferai ceci, et j'aurai cela, et ça ne s'est pas produit, et je crois que là, c'est mal parti, je crois que c'est terminé. Attention, servons le Seigneur là où il nous a placés. Et s'il a quelque chose à nous faire faire, ne vous inquiétez pas, il est très compétent pour ouvrir les portes. C'est un Dieu merveilleux pour ouvrir des portes. Donc n'essayons pas de les ouvrir nous-mêmes, Dieu les ouvrira. Et restons dans la paix, surtout par rapport à ces choses-là. Si Dieu veut quelque chose, il le réalise. Il ne nous en voudra pas si on attend simplement. Moïse a appelé Josué, il lui a dit sous les yeux de tout Israël, sois fort et courageux, encore, hein, Deutéronome 3, 7, c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a juré à leur père de leur donner, c'est toi qui le leur donneras comme patrimoine. Voyez, à la limite, Josué, il aurait pu se dire, je sens que je suis appelé à diriger le peuple, et il aurait pendant 40 ans, il aurait pleuré toutes les larmes de son corps. Au lieu de ça, il a visiblement vécu dans la paix, et le jour J, il était prêt. Ils sont allés le chercher, pour ça, ça n'a pas été compliqué, on dit. Josué, c'est lui. Je me souviens de André pendant sa carrière, à un moment, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, et puis ce n'était pas toujours drôle. Et puis c'est son patron qui, une nuit, n'a pas dormi tant qu'il n'avait pas dit « je mets ce nom-là, Hubert, sur l'organigramme ». Quand Dieu veut quelque chose, ce n'était pas à peine qu'il se batte, qu'il pousse les autres ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on commençait à se poser des questions, on était un peu dans le souci. Mais quand Dieu décide, oulala, ça va vite, hein. Donc, vous inquiétez pas. Et il faut mieux attendre paisiblement que d'essayer de construire un rêve qui n'arrivera jamais. Donc, Dieu sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Ne sois pas terrifié. J'ai pas compté le nombre de fois, mais c'est incroyable ce qui est tout le temps répété à Josué. Dieu appelle Moïse et Josué dans l'attente de la rencontre. Et il lui dit encore, je lui donnerai mes ordres. Il donne ses ordres à Josué. Il dit, sois fort et courageux. Ça, c'est Deutéronome 31. Donc, on arrive à la fin du Deutéronome. Car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Je serai moi-même avec toi. Et ça, c'est une promesse qui est toujours vraie. Je serai moi-même avec toi. Cette promesse-là, on en est sûr. C'est pas nous qui l'avons construite. C'est lui qui l'a dit. Je serai moi-même avec toi. Pensez que Dieu est avec vous. Tous les jours. Tous les jours. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est une promesse sur laquelle on peut bâtir toute notre vie. Et il nous conduira. Ensuite, on arrive au premier chapitre de Josué. Alors, vous le connaissez tous, je crois que vous l'avez tous lu. Et encore une fois, tout repose sur le mot « fortifie-toi, sois fort ». C'est répété tellement de fois. C'est important du fait que le don de Dieu n'est reçu que par ceux qui ont le courage de la foi pour le prendre. Il faut du courage. Il faut du courage pour prendre ce don de Dieu. Après tout ce que Moïse avait subi, on peut aussi comprendre qu'il avait besoin d'être encouragé. Moïse a failli être lapidé, je ne sais pas combien de fois. Encouragé et fortifié. Ce qui est curieux, c'est qu'à la suite de ça, on voit le peuple qui répond à Josué, « On fera tout ce que tu voudras. » Ça, promesse de loyauté, de fidélité, d'obéissance, qui semble montrer que la nouvelle génération avait compris quelque chose de son histoire. Ils avaient accepté le choix de Dieu. Et j'ai réfléchi à la question, c'est pas le même peuple. Le peuple a changé. Et on va le voir après. Parce que Dieu parle à Josué, là j'avance un tout petit peu pour qu'on soit prêt pour la prochaine fois. Il lui dit, Dieu dit à Josué, passe ce Jourdain. Voici quel est votre territoire, je résume, hein, tu passes le Jourdain. Voici le territoire, il lui donne les limites. Ah, quand Dieu veut quelque chose, hein, il vous donne bien vos limites. Personne ne tiendra devant toi parce que je suis avec toi, ça c'est important. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, attention, parce que je suis avec toi. Sois fort et courageux, c'est-à-dire mets la loi en pratique, je résume. afin de réussir partout. Médite-la, assimile-la, imprègne-toi de cette parole, c'est ça que ça veut dire. Veille à la mettre en pratique et ne t'effraie pas. Voilà en gros ce que Dieu va dire à Josué. Le point central, c'est le rapport de Josué à la loi et au commandement de Dieu et à la mise en pratique. Être chrétien, c'est pas avoir une religion, c'est mettre en pratique au quotidien. Pas seulement le dimanche, sans le dimanche, c'est que quelques heures. Mais toute la semaine, mettre en pratique ce que le Seigneur veut qu'on soit et qu'on dise. Ça, c'est déjà plus difficile. Mais vous remarquerez dans Josué, et je sais que les jeunes aiment bien ce chapitre de Josué, tout est centré sur cette mise en pratique des commandements de Dieu. On n'est pas seulement chrétien le dimanche, on est chrétien toute la semaine, on est chrétien avec son patron, avec ses profs, avec ses instituteurs, même quand les profs et les instituteurs sont hyper désagréables parce qu'ils sont fatigués. On est chrétien toute la semaine. Toute la semaine, on est ambassadeur de Christ. Et la mise en pratique dans la semaine, c'est ça la vie du chrétien. Ce que vous faites le dimanche, c'est bien. On vient adorer Dieu ensemble, c'est hyper important. Et on est tous très courageux de se lever le dimanche matin quand tous les inconvertis restent au lit. Mais l'important, c'est notre vie quotidienne avec le Seigneur. La mise en pratique. Et Josué, c'est clair, hein, il le répète sans arrêt. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, etc. Appuie-toi sur les commandements. C'est le point central de la vie du chrétien, la parole de Dieu. Et Jésus aussi, en tant que parole de Dieu, faite chair. Qu'elle imprègne nos yeux, nos pensées, nos paroles et nos actes. Et on va voir Josué qui obéit et qui prépare le passage du Jourdain. J'ai été étonnée, c'était vraiment un chef militaire. Ouh là là ! À peine Dieu lui a dit « Tu vas passer le Jourdain », il s'organise. Il prépare un message, il dit qui doit le donner, à qui et quand. Il est organisé, hein. Il prévoit même les besoins en provisions. Hein, il dit, préparez des provisions parce qu'on va partir. Il prévoit tout. Et il n'oublie rien du tout. Il prend les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, qui avaient déjà leur territoire, vous vous souvenez, Moïse leur avait donné, il l'avait demandé, quand ils avaient eu la victoire sur les rois de Og et de Bazan, enfin Og, Sion, roi de Bazan, ils avaient déjà eu leur territoire. Et Moïse avait dit, attention, hein, ceux-là, il faut qu'ils te suivent, hein, parce qu'ils ne vont pas laisser les autres tribus se battre tout seuls. Il faudra, même si eux, ils ont déjà leur territoire, il faudra qu'ils aillent combattre avec les autres. Et il va rappeler à ces gens-là, Rubénite, Gadite et la demi-tribu de Manassé, l'accord fait avec Moïse. Il n'oublie rien. On obéit, on se prépare, on fait passer les messages, on prévoit les provisions, c'est un chef. Et on n'oublie pas de rappeler à ces trois-là, qui sont supposés venir se battre avec les autres. Il n'oublie rien. Obéir, c'est aussi préparer, organiser, rappeler les accords. Il y avait un accord qui était passé avec Moïse de façon très positive. Il est gentil d'ailleurs, parce qu'il ne les gronde pas. Il leur dit, allez, vaillant guerrier, vous allez vous battre avec nous. Il aurait pu dire, attendez, hein, vous n'allez pas nous lâcher tomber. Bon, il est très positif dans sa façon de les aborder. Vous regarderez ces chapitres 1. Josué ne semble pas du tout débordé par sa responsabilité. Quand on lit, malgré le fait qu'on lit toujours soit fort, soit courageux, il n'a pas du tout l'air débordé, il semble même pas tellement, il n'est pas hésitant. Je pense qu'il a eu largement le temps de se préparer. On voit qu'il est au bénéfice de ses 40 ans de désert. Lui, il n'a pas été puni, mais il a eu le temps de se préparer. Et quand le moment est venu, il est prêt. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des espions. Oh, oh, c'est pas possible. Pourquoi il envoie des espions? C'était déjà le problème la dernière fois, mais c'est plus le même peuple. C'est là aussi qu'on le voit. Il ne cherche pas à envoyer des espions dans le même esprit. Ce sont simplement deux hommes qui vont voir la ville de Jéricho. Et il le fait secrètement, la Bible dit. Justement, il voulait éviter une réaction publique, comme la dernière fois, ou si jamais le rapport n'était pas bon. Mais il agit en bon chef militaire. Il demande juste des infos sur le site, les défenses, les ressources des habitants, les murailles, les tours, les faiblesses du peuple. Et puis, il s'apercevra que ça ne servait à rien. C'est rigolo, ça. C'est l'humour de Dieu. Ça ne servait à rien. Mais ça ne fait rien, il les envoyait quand même. Il s'apercevra qu'avec Dieu, ce n'est pas nécessaire. Mais Dieu ne lui en fait pas reproche. Oh, quand même, Dieu est bon. Ben, je ne sais pas, on pourrait imaginer que Dieu dise, non, ça ne te suffit pas la dernière fois ce qui s'est passé. Tu as failli être lapidé, puis tu en renvoies deux. Et puis... Dieu n'est pas comme ça. Tu veux envoyer des espions? On va voir ce qu'on va voir. En fait, ça ne te servira à rien, mais ce n'est pas grave. Envoie-les quand même. En fait, ça a servi à Rab. Merci Seigneur pour elle. Et puis, ils vont chez une prostituée. Alors, ça peut choquer quand ils arrivent à Jéricho qu'ils aillent chez une prostituée. En fait, j'ai lu dans les livres d'histoire que souvent, les prostituées tenaient des auberges. Pratique. Elle tenait des auberges. Et puis en plus, il n'y avait rien d'étonnant à ce que deux hommes aillent chez elle, deux étrangers. Puisque les étrangers de passage, j'imagine les marchands et autres, hélas, devaient s'arrêter chez les prostituées. Donc rien d'étonnant à ce que deux hommes aillent là, donc ça ne se faisait pas trop voir. Elle connaît beaucoup d'hommes dans la ville, ce qui fait aussi qu'elle peut répondre aux questions. Donc le choix n'était pas si mauvais que ça, même si nous, à notre époque, ça peut vraiment nous choquer. Je vais terminer avec la réponse de Rahab. C'est incroyable. D'abord, elle confirme ce que Dieu avait dit à Moïse. Les habitants ont peur. Mais ils avaient déjà peur 40 ans avant, hein ? Seulement les autres, ils ne l'avaient pas vu. Les 10 espions de la fois précédente, ils ne l'avaient pas vu. Ils n'avaient regardé que ce qui frappait les yeux. Elle sait que Dieu leur a donné le pays. Ah, ça c'est important. Tous ont entendu ce que Dieu avait fait pour le peuple depuis sa sortie d'Égypte et sa victoire et la victoire sur les rois des Amoréens. Tout le peuple le sait. Nous, on ne se rend pas compte. Hein. Elle reconnaît Dieu comme le Dieu du ciel et de la terre. Alors pour une adoratrice, théoriquement, elle aurait dû adorer les dieux cananéens. C'était important. Elle demande la vie sauve pour sa famille, tellement elle est sûre de la victoire d'Israël. Ça, c'est quelqu'un. Alors on se dit comment Dieu a sauvé cette femme et toute sa famille. Mais ce n'était pas n'importe qui. Elle avait compris qui était Dieu. Malgré son statut social, malgré sa vie immorale, elle avait compris qui était Dieu. Et souvent, Dieu nous provoque avec des textes comme ça. Ne pas se fier à l'apparence. Je ne pense pas qu'elle ait continué ce style de vie une fois qu'elle a été dans le peuple d'Israël. Mais une chose est sûre, elle avait compris. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et il y a eu une famille qui a été sauvée sur Jéricho. Ça a été la famille de Rahab. C'est incroyable. Et c'est aussi une preuve, et ça pour les enfants, j'y tiens, parce que moi, quand j'étais petite, c'est un truc qui me faisait beaucoup de soucis dans la Bible. Pourquoi il y avait tant de gens qui étaient tués? C'est terrible. Comment un Dieu d'amour pouvait faire ça? Et là, on a la preuve que ceux qui voulaient se tourner vers le Dieu d'Israël, ils pouvaient. Ceux qui voulaient accepter le Dieu d'Israël, ils pouvaient se joindre au peuple. Ils avaient cette possibilité. La porte était ouverte. On l'a vu quand ils sont sortis d'Égypte. On l'a vu à Canaan. Et on va le revoir avec Ruth, la Moabite. La porte est ouverte. Ils pouvaient accepter Dieu et changer de camp, en quelque sorte. Ça n'explique pas tout, mais ça rassure un peu. Parce qu'Israël avait le rôle de lumière, comme nous, on a le rôle d'ambassadeur. Lumière du monde, celle de la terre. Et elle sera dans la généalogie de Jésus. Arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Incroyable. Incroyable. Je terminerai en disant qu'on ignore ce qui se passe dans le cœur des gens. Et souvent, je le dis, quand on prie pour quelqu'un, je dis, on ne sait pas ce qui se passe dans Jéricho. Ça veut dire, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens pour qui on prie. Parfois, on dit, oh, regarde, ils nous rejettent, ils ne nous aiment pas, oh, regarde ce patron, regarde ce prof, regarde. On ne sait pas ce qui se passe dans leur cœur. Et on serait surpris, parfois. Parfois, il y a des gens qui ont l'air de vouloir accepter le message de l'Évangile. Oh, ils sont d'accord avec nous, ils sont gentils. Ils n'en ont rien à cirer, c'est comme sur les plumes d'un canard. Et il y en a d'autres. Oh, ils nous font la tête, ils sont désagréables. Je me souviendrai toujours du témoignage, pour tous ceux qui l'ont connu, de Marilyn Mitton. Quand l'aide-soignante qui travaillait avec elle, ou l'infirmière qui travaillait avec elle, lui a parlé de Jésus, elle a été infâme. Et elle avait du caractère, Marilyn. Elle pouvait être infâme si elle voulait. Hein. Je vois tout le monde qui... Et elle a été désagréable avec cette fille pendant des mois. Mais elle est venue au Seigneur. Parce qu'au fond, elle disait que ça travaillait. On ne sait pas ce qui se passe dans Jéricho. Quand vous priez pour quelqu'un, vous êtes ambassadeur de Christ, vous ne savez pas ce qui se passe dans les cœurs. Il y a peut-être une Rahab quelque part. Il y a la peur, il y a tout un tas d'autres choses. Les premiers espions, ils n'ont vu que les géants, les armes, les murailles. Et les espions, là, ils ont vu un peuple qui tremblait de peur, une femme qui acceptait Dieu, une famille qui a été sauvée en fin de compte. On peut avoir des regards différents sur les choses. Et vous savez, c'est mon verset préféré, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux ». C'est dans Samuel, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est une bonne expérience qui s'est passée là. J'aurais voulu avancer plus, mais je suis désolée, sinon vous n'allez pas manger ce midi. On va simplement prier. Seigneur, merci de nous aider à être tes ambassadeurs pour Christ. Et à ne pas nous arrêter à ce que nous voyons. Mais donne-nous du discernement. Aussi bien dans les situations où nous sommes appelés à être généreux, mais aussi dans les situations où nous devons voir ce qui se passe et ne pas nous arrêter aux apparences. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, comme Josué, que nous puissions ne pas être remplis de nous-mêmes, être remplis de toi, afin que ton nom soit glorifié. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans notre travail, à l'école, à la maison, auprès de nos collègues, auprès de nos voisins, que ton nom soit glorifié, qu'ils puissent dire « leur Dieu est fantastique, leur Dieu est amour ». Seigneur, donne-nous vraiment de renoncer à nous-mêmes, à tous nos petits trucs qui sont franchement néfastes, et à être remplis de toi pour que ta parole se répande sur cette terre. Amen.